Aujourd'hui, à rencontre, le docteur Alfred Tomatis. Donc aujourd'hui, c'est le docteur Alfred Tomatis que je vous présente. Monsieur Tomatis est médecin, il est chercheur scientifique également, il est théoricien, il est aussi inventeur. C'est dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Son champ d'expérience, c'est l'oreille. Et c'est à partir de cette oreille, de votre oreille, de mon oreille, que Monsieur Tomatis étudie le phénomène de l'audition, ce qui est normal, mais qu'il poursuit ses recherches sur le langage, sur la communication aussi, pour enfin en arriver à une philosophie globale de la vie et même à une métaphysique. J'espère que je ne vous ai pas trahi, Monsieur Tomatis.
Jusqu'à ce moment, non.
Jusque-là, non. D'accord, ça va. Je vous signale, avant de lui poser la première question, qu'il est l'auteur, notamment, de l'écoute, l'oreille et la vie, et l'oreille et le langage. Ce qui étonne d'abord, docteur Tomatis, je suis sûr que je ne suis pas le premier à vous le dire, c'est de voir que vous avez fait de l'oreille le centre de toutes vos recherches.
C'est sûr. Peut-être parce qu'on prêche toujours pour son couvent. J'ai donc démarré immédiatement dans une recherche qui était polarisée parce que j'étais d'emblée induit à m'occuper de l'oreille, puisque j'étais otorhinolaryngologiste. Est-ce que je n'aurais pas fait la même chose en prenant le bonhomme par les bouts du pied? Je n'en sais rien. Je crois que ce qui m'intéressait, c'était l'homme en soi, dans sa totalité, dans sa globalité.
Oui, parce qu'habituellement, l'otorhino, c'est un monsieur qui s'occupe d'examiner, de soigner ou d'opérer nos oreilles. Et pour lui, j'ai l'impression, l'otorhino classique, l'oreille est l'organe de l'ouïe, qui nous fait percevoir les sons, et ça s'arrête là.
C'est ça. Il y avait aussi l'otorhinolaryngologiste qui s'est limité à l'oreille faisant des otites.
Voilà.
Mais j'ai eu la chance de connaître l'otorhinolaryngologie il y a déjà longtemps, puisque, grâce à l'ancienneté, j'étais de ceux qui ont commencé l'otorhino très étendu. On faisait de mon temps la chirurgie du thorax, la chirurgie de la tête et du cou. Okay. Donc c'était plus vaste. Puis après, ça s'est redressé, parce qu'il y avait des spécialistes de chaque étage. Et on faisait également l'ophtalmo, par exemple. Et puis ensuite, donc, mais j'ai eu la chance également, en démarrant, de me préoccuper de deux problèmes, notamment deux des facteurs de phonation, parce que j'étais fils de chanteur et les gens étaient excités de savoir ce que je pouvais leur apporter, alors que je n'y connaissais rien que simplement le répertoire des chanteurs, mais c'était tout. Et ensuite, j'ai eu la chance de diriger le laboratoire de physiologie acoustique de l'armée, vraiment spécifiquement sur l'oreille, ce qui m'a donné une dimension de recherche beaucoup plus élaborée.
Oui. L'oreille est beaucoup plus que l'organe de l'audition, dites-vous et répétez-vous souvent dans vos livres.
Oui.
Même que l'organe de l'audition, ce ne serait que le prétexte, en fin de compte.
C'est ça. Je pense que nous l'oublions un peu trop souvent. Et même anatomiquement, on a scindé l'oreille en deux parties. On en a vu un appareil qu'on appelle l'appareil vestibulaire, qui serait fait pour l'équilibre seulement, et un appareil cochléaire qui serait fait pour l'écoute. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ce sont des facteurs seconds. L'oreille a été happée peu à peu à devenir cela, peut-être par le langage lui-même, par que l'homme puisse s'exprimer. Mais au départ, c'est la fonction est celle d'assurer la posture du sujet dans l'espace, sa verticalité. Donc c'est déjà un gros problème et qui pose beaucoup, à un moment donné, de difficultés.
C'est notre fil à plomb.
C'est notre fil à plomb.
C'est bien vrai, ça.
C'est un vrai gyroscope, oui, qui permet à un moment donné de trouver une position. Mais une autre dimension que nous oublions trop souvent, c'est qu'elle charge le cerveau en stimulation électrique. En stimulation qui va donner de l'énergie au cortex. Et grâce à elle, nous avons besoin, maintenant nous savons qu'un cerveau pour marcher a besoin de stimulation, et on connaît même la quantité nécessaire de stimulation pour y parvenir, et c'est grâce à elle que tout le corps est impliqué à bagarrer contre la gravitation.
Oui, quand vous parlez de recharge cervicale, nous on nous enseignait traditionnellement que oui, il y avait des influx électriques évidemment qui partaient de l'oreille et qui allaient au cerveau, mais toujours en fonction du son que l'on entendait. Tandis que pour vous, c'est plus que ça.
C'est plus que cela, oui. Le son va jouer d'ailleurs sur l'oreille elle-même et surtout le corps. Donc c'est les organes qui font la réception cutanée sont aussi peut-être des morceaux d'oreilles différenciés, mais ça également tout ce qui est mouvement va jouer sur la partie dite vestibulaire, donc les canaux semi-circulaires, qui donnent à la fois, encore une fois, je le répète, l'équilibre et le tonus.
Qu'est-ce que vous entendez exactement quand vous dites « ce n'est pas l'oreille seule qui écoute, mais tout l'être » Vous dites bien l'être.
C'est ça. Alors là, vous soulevez le problème de métaphysique auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Eh bien, je pense que dans chaque individu, il y a un être qui le promeut. Et c'est pour la découverte de cet être que toute sa vie va être, à un moment donné, conditionnée. Et son corps va devenir l'instrument, à un moment donné, qui va permettre à cet être de s'exprimer. Au fond, là, j'ajoute une dimension que l'on n'accorde que peu au corps, d'être l'instrument de l'expression de l'être. Et le langage n'est pas l'instrument, comme on le prétend d'ordinaire, mais simplement une sécrétion. Autrement dit, là, il y a trois étages. Il y a un être qui est à l'intérieur, qui va s'exprimer par un « je », un « je suis ». Et puis ensuite, il y a toute la culture sous-jacente qui va donner un « moi », si vous voulez, et un corps qui va être un « ça ». Quand on dit tous les matins « ça va bien » ou « ça ne va pas », c'est cet ensemble, ce corps qui veut s'exprimer. Eh bien, je pense que c'est vers l'être que nous allons, et cet être profond qui fait qu'à un moment donné, nous savons qu'au-delà de l'existence, nous pouvons encore vivre. Et vous vous souvenez que l'existence veut dire ne pas vivre.
Mais dans ce cheminement-là, depuis l'oreille jusqu'à l'être, dans cette recherche et cette découverte éventuelle de l'être, de chacun d'entre nous, est-ce que le cerveau et la pensée n'est pas un élément plus important que l'oreille? Encore là, on est étonné de voir de quelle façon vous cheminez depuis l'oreille. Eh bien, jusqu'aux ultimes questions que l'homme peut se poser.
Eh bien, justement, c'est parce qu'anatomiquement aussi, nous sommes bloqués parce que l'étude qu'on a faite, vous savez que depuis les dernières décades, le cerveau est peut-être ce qui se livre le plus en plus à la découverte de l'homme, ce qui intéresse le plus, à un moment donné, les chercheurs. Mais on a toujours une habitude de rencontrer le cerveau par tranche et par rondelle et essayer de voir où passent tous les faisceaux. Et on commence toujours, à un moment donné, à le considérer en le regardant dans sa totalité et puis voir ce qui se passe du cortex de la partie haute vers le bas. Et plus j'avance, et notamment dans toutes mes recherches, plus dans mes documents même qui parlent de l'oreille, plus je suis étonné de voir qu'on peut parler de tous les nerfs et presque jamais de l'oreille, comme si on avait oublié. Or, je pense que c'est l'organe essentiel, et mieux que cela dans toute la phylogénèse, c'est-à-dire dans toute la progression animale, et qui va mener l'organicité jusqu'à élaborer un système nerveux central de l'homme, qui est le point culminant, eh bien on se rend compte que l'oreille a une précession. C'est elle qui naît d'abord, et c'est elle qui va entraîner le système nerveux. À tel point que plus j'avance, plus je suis persuadé, et qu'elle est un organe qui précède, qui va fabriquer peu à peu le système nerveux pour s'impliquer à l'écoute de l'univers qui est autour.
De l'oreille, vous passez au langage, à la parole. Oui. Et vous dites de toute façon que organiquement, l'oreille et le larynx sont liés, intimement mariés, dites-vous.
C'est cela. Eh bien, il se trouve que mon premier travail de recherche, qui remonte à 1944, a été justement de montrer qu'il y avait une communication intime entre l'audition et la phonation. Et ceci m'a été donné par les chanteurs. Effectivement, le problème que je me pose à l'époque, c'est de voir pourquoi un chanteur pouvait pousser un si bémol et pas un autre. Eh bien, c'est que les chanteurs sont dotés d'une oreille très exceptionnelle. Et je dis bien une, car les deux ne marchent pas en même temps. C'est toujours l'oreille droite qui leur permet de faire ce contrôle électif. Et ils arrivent à viser les sons, leurs propres sons, à les contrôler en justesse, en qualité, en hauteur, tout ce que l'on
Donc
veut.
Donc, c'est pas à cause de sa voix si le chanteur ne peut pas se dépasser lui-même. C'est à cause de son oreille.
C'est à cause de son oreille. Il est pratiquement, si vous voulez, entre guillemets, un anormal auditif, tant il a une oreille exceptionnelle. Mais si vous lui supprimez cette oreille, en laboratoire, c'est facile à faire pour un instant, mais immédiatement, il perd toutes ses personnalités d'émission. Il ne peut plus chanter immédiatement. Donc, il y a une sorte de rupture. C'est vrai pour tous les musiciens. J'ai eu la chance de faire les mêmes expériences, si vous voulez, de suppression de cette potentialité chez des grands violonistes, immédiatement, et même avec leur Stradivarius entre les pattes, ils jouent comme s'ils avaient un morceau de bois.
Mais est-ce que ça veut dire ça que le chanteur qui serait pris d'un mal subi d'oreille et qui lui enlèverait l'oreille droite, c'est l'oreille
dramatique,
droite, vous dites ?
C'est dramatique.
Il ne peut plus chanter.
Même si son oreille gauche est exceptionnelle, il ne peut plus rien faire.
Et quel est le rôle de l'oreille gauche ?
Eh bien, l'oreille gauche est là pour donner une sorte de relief d'ensemble. Elle est tout de même nécessaire. Mais au début, si vous voulez, les deux oreilles sont indifférenciées. Quand vous entrez dans la nature, eh bien, comme vous avez deux mains, il n'y en a aucune qui puisse faire quelque chose. Et deux yeux, il n'y en a pas un qui est dominant. Puis ensuite, il y en a un œil, par exemple, qui va viser. Mais il y a une oreille aussi qui va viser les sons. Et c'est en règle, quand on a la chance, toujours l'oreille droite. J'ai jamais vu d'exception au phénomène dans les grandes élaborations, dans les fluidités verbales, dans les grands musiciens, dans les grands chanteurs. Et cette oreille exceptionnelle va entraîner peu à peu la gauche à avoir la même rapidité de réponse. Et ensuite, l'autre va l'aider, et avec une sorte de perception que l'on sent dans les grands écouteurs, dans les grands phénomènes d'écoute, des, ce qu'on appelle à un moment donné de sorte de convergence de cette manière d'entendre qui se trouve comme au sommet du crâne, un point qu'on appelle le point de convergence. Faites ça à l'oreille de la troisième oreille ou l'oreille, le sasraha du Bouddha.
C'est la convergence des deux oreilles.
C'est la convergence des deux oreilles qui vous donne l'impression d'entendre à partir de 2000 Hz au-dessus du crâne.
Est-ce que l'une peut corriger l'autre ?
Exceptionnellement, il m'est arrivé pour des gens qui avaient perdu leur oreille droite de leur faire prendre cette conscience et de pouvoir activer l'oreille gauche jusqu'à leur donner la chance d'avoir la même potentialité. C'est très très difficile, alors qu'il est tellement aisé d'éduquer l'oreille gauche en entraînant la droite.
Et vous allez très loin dans vos constatations. Vous dites qu'on chante avec l'oreille, là je crois que vous venez de nous l'expliquer. Vous dites même que l'on peint avec l'oreille.
Oui, j'ai été conduit, et puis j'aime bien lancer comme ça des choses brutales pour faire réfléchir les gens, mais j'ai eu la chance de voir beaucoup de peintres, de soigner beaucoup de peintres abstraits, des modernes, et qui étaient notamment venus me voir parce qu'ils ne pouvaient plus plaquer leurs couleurs, et quelques-uns même ne plus avoir l'habileté du trait. Et avec un examen d'écoute, non pas un examen d'audition, mais d'écoute, c'est-à-dire leur intervention d'acceptation ou non du bruit environnant et du langage environnant, avec la destruction notamment à 1000 Hz par exemple, vous voyez qu'un peintre ne peut plus, à un moment donné, jouer de son graphisme avec certitude. Mais non plus que vous verriez quelqu'un pouvoir bien écrire si jamais on porte une lésion à ce niveau-là. Il y a donc là toute une application systématique de tout le corps, mais une des preuves m'a été donnée plus exceptionnelle, c'est lorsque j'ai touché l'oreille de Francis Cathy, qui s'était livré à toute expérience, lorsque j'ai touché son oreille droite, justement à ce point-là, Francis Cathy s'est arrêté de jouer en me disant « Votre histoire me gêne pour l'oreille, mais ce qui est étonnant, c'est que ça me fait mal aux doigts, je ne peux plus bouger mes doigts. » Donc c'est tout le corps qui est impliqué. Il y a à un moment donné une sorte d'incarnation du son en totalité.
Vous aviez modifié dans votre laboratoire son audition.
Son audition, et lui, il a joué toujours, à un moment donné, son concerto de Brahms qu'il était en train de répéter. Eh bien, il s'est trouvé ne pas pouvoir jouer parce que tout était soudé, ses doigts ne pouvaient pas bouger, même de la main gauche. Donc, c'est important. Enfin, sur le plan neurologique, ça soulève beaucoup de problèmes. Eh bien, quand j'ai pu rééduquer l'oreille de certains peintres, je l'ai vu retrouver non seulement leurs traits, mais également leurs couleurs. Dès l'instant où vous ajoutez, vous pouvez leur accorder des bandes passantes au-delà de 1000, entre 2 et 3000, les verts réapparaissent, et au-delà de 3000, les bleus reviennent. Et vous avez notamment des langues du monde qui sont fixées à certaines étapes, comme les Espagnols, qui ne se dessinent que dans les rouges ou les sombres, comme leur fixation de leur bande passante auditive.
Il faudrait retrouver les données fondamentales de l'étude des oreilles des artistes de certaines périodes, peut-être pour expliquer la décadence dans l'art. Par exemple.
C'est possible.
Ça pourrait aller jusque-là.
Ça peut aller jusque-là, c'est sûr. À un moment donné, il y a des modifications linguistiques et autres.
Disons que ça va jusque-là, mais là, il y a encore une idée plus étonnante que vous émettez dans un de vos livres. Vous dites qu'on lit avec les oreilles.
Alors ça, je suis de plus en plus persuadé. Et d'autant plus que l'écriture est née de gens qui avaient la chance d'avoir des oreilles exceptionnelles, comme les Phéniciens par exemple, qui ont pu décrypter, ou les premiers Hébreux, qui ont pu décrypter un son et tenter de le mettre sur le graphisme. Autrement dit, c'est de là, c'est une sorte de phonétique extraordinaire qui a voulu représenter un signe. Et lorsque vous êtes en train de lire, chaque signe n'a de valeur que parce que vous savez y superposer un son. Mmh. Autrement dit, lire, c'est non seulement décrypter avec l'œil, qui est une tête de lecture, un graphisme qui n'a de signification que parce qu'il y a en-dessus un son qui va s'y superposer. C'est une sorte de film de montage qui peut se faire, et c'est parce qu'on arrive à faire cette succession, ce montage, qu'ensuite on arrive à reproduire la signification sonore. Problème que n'a pas l'enfant lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il ne peut pas réaliser ce montage, eh bien, il va entrer dans tous les troubles, notamment la fameuse dyslexie dont tout le monde parle et que tout le monde fixe sur l'œil. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce problème. C'est toujours au niveau de l'oreille que ça se passe.
Vous parlez aussi d'une chose extrêmement intéressante que vous appelez l'écoute intra-utérine.
Là, c'est aussi tout un grand programme. Et l'écoute intra-utérine, j'ai été conduit pour traiter, il y a quelques 20 ans, des enfants beaucoup plus profondément malades que les dyslexiques ou les bègues que j'avais à traiter, les bègues étant justement ceux qui n'avaient pas déclenché l'oreille droite. Et de fil en aiguille, je me demandais jusqu'où on pouvait monter, puisque quelques échecs faisaient que je me trouvais bloqué, parce que peut-être je n'avais pas été assez régressif dans la recherche, assez loin dans la recherche. Et là, je me suis trouvé nez à nez avec le problème de savoir si le fœtus allait entendre ou entendait. Et en faisant des montages, je me suis convaincu de l'affaire, et notamment en prenant la voix de la mère, je me suis rendu compte que le fœtus entendait non seulement tous les bruits viscéraux de la mère, mais entendait encore tout le langage de la mère, et mieux que cela, au-dessous du langage, la voix de la mère, qui c'est une sorte de loi d'amour et de fixation. Et toute la grande pathologie profonde...
Et vous en avez fait la preuve en laboratoire
de ça. J'en ai fait la preuve en laboratoire, et j'en ai fait surtout la preuve clinique, c'est que lorsque j'injecte la voix de la mère à un enfant qui a des troubles du langage profond comme un schizophrène autiste, immédiatement son désir de revivre réapparaît et désir de recommuniquer avec la mère en prenant une posture fœtale et autre.
Vous injectez à l'enfant malade la voix de sa mère. C'est-à-dire que vous lui mettez des écouteurs et vous lui faites
entendre
ça. C'est
ça, à travers des machines spéciales. Nous savons maintenant pouvoir, par des bascules, faire marcher sa musculature de l'oreille, puisqu'il y a deux petits muscles qui doivent ouvrir l'oreille. Lorsque nous sommes sûrs que l'oreille passe, le message va sûrement passer et une sorte de liaison se refait, de communication avec la mère, et l'enfant a redésir de vivre. Ou maintenant on m'accorde que le fœtus entend depuis l'âge de 4 mois et demi, mais j'ai bagarré à peu près 15 ans seul dans le désert, et nous sommes encore un peu en bagarre, parce que je prétends que le fœtus entend dès son état embryonnaire, c'est-à-dire dès les premiers jours de la vie, non pas 4 mois et demi.
J'aurais mis le cas. Vous allez très loin. Est-ce que l'oreille est déjà amorcée dans...
Elle est déjà amorcée. Elle commence dès les premiers jours de la vie fœtale, mais elle est déjà adulte et terminée à 4 mois et demi. Donc elle a fonctionné déjà avant.
C'est pour ça que le fœtus entend.
Et c'est ça que le fœtus entend et qu'il décrit 1000 choses. Il peut entendre tout ce qui se passe dehors, de la musique. Mais une mère communique avec son enfant.
Vous dites qu'il entend la musique qui se passe dehors.
Bien sûr. Donc il y a toute une éducation des mères à faire. Il y a toute une éducation et surtout éviter tous ces stress qui sont dramatiques lorsque la mère entre en conflit avec...
Mais il ne peut pas l'entendre avec la même sonorité que nous l'entendons.
Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et toutes les expériences maintenant sont faussées parce qu'on veut toujours mettre des microphones dans l'eau et voir ce qui se passe. On veut plonger sa propre oreille dans de l'eau, dans une baignoire et voir ce qui se passe. Mais là, on a oublié que l'oreille du fœtus ne marche pas pareil. Elle est emplie d'eau jusqu'à la totalité. La trompe de sage, tout est plein d'eau. Et là, il y a tout un effet. Et notre démarche ensuite d'adulte, c'est de retrouver un jour l'oreille que nous avions quand nous étions fœtus, c'est-à-dire une oreille absolument exceptionnelle.
Donc, est-ce que vous pouvez influencer le développement du fœtus à partir de cette connaissance que vous avez maintenant, que le fœtus peut entendre?
Eh bien, ce que je fais, et je détends déjà beaucoup les mères en leur permettant, elles, d'entrer dans l'écoute, c'est-à-dire immédiatement, dès qu'on est entré dans l'écoute, on supprime presque ces facteurs d'angoisse et on s'est passé au-delà de tous ces problèmes analytiques. Lorsque la mère est désangoissée, le fœtus est déjà dans un état extraordinaire et il entend sa mère avec une voix extrêmement détendue et déjà plaisante. Et la mère accepte l'enfant.
Cet appareil dont vous parlez de laboratoire, est-ce que c'est ça que vous appelez l'oreille électronique?
L'électronique est un des appareils de ce laboratoire. L'oreille électronique est un ensemble, un complexe, et qui est en fait un simulateur, on appelle simulateur donc un appareil qui fait le même travail, un simulateur de l'oreille humaine. C'est-à-dire qu'il fonctionne exactement comme fonctionne une oreille. Mais la chance, c'est que lorsqu'on superpose cet appareil qui marche tout seul électroniquement sur une oreille avec des casques et des écouteurs, elle la dresse, elle conduit l'oreille à fonctionner comme elle, comme une sorte de gymnastique. Et au fond, dans l'oreille, il y a une bascule. C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes tous induits à ne pas vouloir entendre, à ne pas vouloir écouter. Un peu comme on n'a pas envie de voir, on laisse l'œil s'en aller à l'infini. Subitement, on est pris par le son. Il y a donc une sorte d'induction à accepter passivement le son qui va venir, le langage, et puis ensuite un désir de vouloir écouter, c'est-à-dire d'aller prendre le langage lui-même. Eh bien, c'est pour ça qu'on va passer d'une oreille qui donne une audition, qui est un phénomène passif, à celui d'entendre, qui est déjà une sorte d'activité d'acceptation, et puis ensuite celui d'écouter. Il y a une dimension qui va encore beaucoup plus loin, mais qui est intolérable, qu'on ne peut pas sortir, et qui a pourtant une bonne signification, car elle existe en latin, qui veut dire « aller vers ce que l'on veut écouter ». Ça se dit « obaudir », ça dit « obéir ». Celui qui obéit est celui qui va aller à l'écoute de cette voix extraordinaire qui est au fond une expression de l'univers qui veut lui parler.
C'est dans ce sens-là que vous faites une différence capitale entre entendre et écouter.
Bien sûr, elle est fondamentale. Et quand on éduque un enfant, d'ailleurs, à rentrer dans cette dynamique, et quand il ne veut pas écouter, qu'il y a des ennuis scolaires, enfin tout ce qu'on connaît, qui lui rend la vie impossible, qui lui fait oublier que l'école était l'endroit où l'on s'amuse pour apprendre, eh bien, quand on commence à l'éduquer et qu'il se met à entendre, il nous dit « j'entends très bien, mais j'écoute pas encore ». Ça, c'est, il le signifie. Alors que pour nous adultes qui savons écouter, ça nous paraît tellement la même chose.
Entendre, ça peut être passif, tandis qu'écouter, c'est actif.
Oui, et quand on regarde dans toutes les assaises, dans tous les grands cheminements, c'est toujours le mot d'écouter qui revient en permanence.
Cette oreille nous a conduit bien loin jusqu'à maintenant. Et vous avez employé le mot langage et le mot langue très souvent. On a l'impression que pour vous, Au fond, c'est l'oreille qui est à l'origine du langage.
Eh bien, je pense que ça va plus loin. Je pense que c'est le langage qui est à l'origine de l'oreille et du système nerveux.
C'est le langage qui est la clé.
Qui est l'inducteur premier.
L'inducteur de tout ça.
C'est ça, oui. On a l'impression qu'on est suspendu au verbe, nous sommes tous ses fils. Il y a donc là une sorte d'induction, il semble qu'à un moment donné, il se réalise dans l'organicité une sorte d'appel vers le langage qui fait que peu à peu se construit un système nerveux qui va répondre à un moment donné par toutes ces données, par sa construction.
Mais celui qui n'entend pas ne peut pas parler.
Si, grâce à des moyens seconds. Mais s'ils n'entendaient pas, jadis, on ne faisait rien pour eux. Maintenant, on a heureusement trouvé des suppléances. Mais la surdité totale, telle qu'on l'envisage souvent, parce que pour nous, être sourd, c'est ne rien entendre du tout, c'est tout de même très exceptionnel. Et il y a un appareil qui marche tout de même, c'est l'appareil d'équilibration, et qui est donc l'appareil vestibulaire dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, tout démontre que cet appareil sait déjà entendre beaucoup de choses. L'utricule et le sacule, enfin cette première partie, c'est entendre au moins jusqu'à 1000 Hz. Et jusqu'à 1000 Hz, on peut superposer un langage qui ne sera pas de très bonne qualité. Pour celui qui est affiné, qui connaît bien tout le système, on sait à quel point le sujet n'est pas tout à fait pareil, même sur le plan gestuel.
La musique, évidemment, vous intéresse beaucoup et vous vous intéressez surtout, je crois, à la musique de Mozart et à la musique grégorienne.
Oui.
J'aimerais savoir pourquoi. Vous avez des raisons scientifiques, vous n'avez pas que des raisons d'ordre esthétique.
C'est ça, mais j'avais quelque chose qui doublait mon esthétique, c'était mon efficacité en tant que médecin. Donc à un moment donné, je voulais libérer les enfants et voir, à un moment donné, quand je passais de la voix de la mère vers le langage, il y avait un hiatus à combler, et je pensais que je pouvais passer la voix du père, par exemple. Je n'ai eu que des catastrophes, c'était trop vite.
Ça n'allait pas, le père.
Ça ne marchait pas, et c'est plus tard qu'on l'entend. Et du père, on n'entend que la sémantique, on n'entend pas sa voix. C'est la mère restera toujours la voix, le père la sémantique, sorte de patte sur laquelle on va greffer le langage. Eh bien, pour combler ce hiatus, j'ai essayé des musiques qui étaient des rythmes. Et je me suis rendu compte que toutes les musiques n'avaient pas d'efficacité. Et c'est Mozart et justement les chants grégoriens qui me donnent le plus d'efficacité.
Mais qu'est-ce que vous appelez efficacité dans ce cas-là?
Eh bien, c'est qu'un enfant mis devant n'importe quelle musique sous oreille électronique, donc étant sûr qu'il l'entend bien, se trouve absolument désemparé si on lui passe même les musiques modernes, ce qu'on veut, yéyé et autres. Alors que nous, on croirait que là, il y a de l'activité, quelque chose. L'enfant est figé sans créativité.
Ah oui?
Dès que vous passez du Mozart, il s'allume tout de suite, il veut des crayons, de la peinture, il fait quelque chose. Et quand on passe du grégorien, il veut la verticalité immédiate. Eh bien, on s'en rend compte, le grégorien, c'est simplement une efficacité cherchée dans l'énergie des sons depuis des millénaires pour arriver à une sorte de, mettons, de système ascétique pour charger un cerveau, puisqu'on a besoin de simulation chez des gens qui étaient voués au silence, sans doute pour ne pas dire trop de bêtises, dû à la toute une dimension, mais ils étaient obligés au moins d'avoir des stimulations. Et tous les monastères qui ont arrêté le chant ont fermé, par exemple.
Ah oui?
Et donc, vous voyez à quel point c'est une application obligatoire.
Donc, le chant grégorien dans les monastères, c'était extrêmement pratique,
c'est une des grandes clés de l'énergétisation du cerveau.
Ce n'était pas seulement le côté, c'était pas seulement la beauté sonore qui était importante.
Non, mais cette beauté réimplique, quand on regarde les sons faits par le chant grégorien, sont tous les sons qui passent justement dans la zone de charge de l'oreille.
Dans la zone de charge de l'oreille.
C'est ça, il y a des zones qui sont dans une sorte de gerbe vers les aiguilles à partir de 800 Hz et avec une courbe ascendante qui fait qu'ils bénéficient justement de cette oreille exceptionnelle et qui leur permet, à un moment donné, dès qu'ils émettent un son, de charger leur potentiel cortical.
Ça charge le potentiel cortical, c'est-à-dire que ça aide l'homme à
penser,
être plus,
à créer,
avancer,
à être plus conscient. C'est pour allumer le champ conscient de méditation.
Mais si vos enfants réagissent, s'épanouissent en écoutant du Mozart et de la musique grégorienne, comment se fait-il que quelques années plus tard, ils se lancent dans le yéyé, la musique rock et toutes les musiques qui les figent quand ils sont très jeunes? Comment expliquez-vous ce phénomène-là?
Eh bien, je pense que délibérément, on veut assez souvent détruire les jeunes. Et c'est très facile de spéculer et de leur faire passer n'importe quelle musique qui est une drogue actuellement qui détruit les oreilles et jusqu'à nous en faire un gros problème actuellement puisque lorsque l'oreille a l'intensité qu'il la passe, réduit ces jeunes à une destruction de leur organe de cortis, on aura sûrement des ennuis plus tard. Donc là, il y a un problème social.
Donc, vous croyez qu'on leur impose ces musiques-là, en fin de compte? Qu'on les éduque en fonction de ça?
Eh bien, si vous touchez seulement qu'un appareil de haute fidélité, un appareil de très grande qualité coûtera 10 fois moins cher s'il ne donne pas de grave.
Oui.
Bon, et c'est pourtant les graves qui vont démolir le jeune homme. Donc, il y a tout à un moment donné un inventaire.
Maintenant, j'ai dit au début que vous en aviez déduit une métaphysique de ces recherches. Je tiens à citer une phrase dans votre livre « L'écoute », à la page 32, vous dites « L'oreille va organiser son appareil d'audition en vue d'assurer en phase terminale cette suprême fonction qui lui permettra d'entrer en communication avec l'univers. » Vous parlez aussi d'entrer en communication avec le cosmos. Alors là, vous allez très loin.
Oui, plus j'avance, plus je suis persuadé que le cosmos, enfin tout l'univers en totalité, est entièrement découvert. On veut toujours trouver des chemins extraordinaires pour entrer en communication avec lui-même, mais il suffit de regarder. Mais les gens regardent avec une propension fantastique leurs pieds, mais jamais en l'air. Et je crois qu'il suffit de voir et de traduire. Il n'y a que l'univers qui veut s'exprimer. Malheureusement, l'instrument qui va permettre de sortir cet élément-là, c'est un homme avec ses filtres, ses barrages. Et malheureusement aussi, il ne sortira jamais de lui, très souvent, que les préoccupations, plus ou moins nauséabondes de ses préoccupations personnelles. Enfin, c'est un jus qui n'a rien à voir avec ce que l'univers veut lui dire. Par contre, quand il s'est réalisé, quand il était passé au-delà de tous ses problèmes, eh bien, il n'y a pas de doute qu'il découvre tout ce qu'il veut et qu'il peut faire bénéficier aux autres, enfin chacun avec son filtre, de sa connaissance. Mais à un moment donné, c'est le logoi, enfin le logos, comme disaient les Grecs, qui s'exprime.
De quel type pourrait être cette communication?
Elle est à la fois visuelle, mais tout ce que vous voyez par la vision n'a pas de signification, pas passer à l'autre si vous ne le verbalisez pas. Donc elle est toujours verbale, il n'y a rien à faire. Et puis en dessous de cette structure, il n'y a pas de doute que le monde tel qu'il se découvre, phénoménologiquement, est à un moment donné la preuve qu'il y a un invisible sous-jacent, et lui aussi communique, et lui aussi nous dit. Un peu, vous parliez de Mozart tout à l'heure, mais Mozart est celui qui a entendu les mouvements que l'univers pouvait faire d'une manière sonore, et il les a exprimés, pour nous les a traduits, parce qu'il avait une oreille plus sensible.
Mais ça veut dire que d'une certaine façon, nous sommes en communication avec ce qu'on peut appeler l'univers, ou avec le cosmos, ou avec
Bien sûr, nous sommes bombardés d'informations de tous ordres. Mais à un moment donné, il y a une sorte de traduction globale qui va faire que nous pourrons là-dessus plaquer un langage, mais ce langage, pour le passer à l'autre, n'est jamais que verbalisé. Donc il y a à tout moment une sorte d'imbrication et de suspension. Il n'y a pas une étoile qui ne soit en suspension avec vous-même et vice-versa. C'est ce qu'on ne réalise pas et on ne vit pas assez.
Mais comment chaque individu peut-il trouver le moyen de s'améliorer, ensemble, de faire accélérer peut-être le phénomène de l'évolution pour se rapprocher de plus en plus de cette connaissance?
Et c'est pour ça que je m'étais permis d'écrire, si tu es allé un livre que j'avais fait qui s'appelait « L'écoute humaine », c'est « Vers l'écoute humaine ». Tant je suis persuadé que les gens n'y vont pas encore, et c'est parce qu'on arrive à énergétiser à un moment donné cette fonction extrêmement forte que le sujet va à un moment donné avoir un champ conscient très ouvert. Notre grande oreille, c'est la conscience à un moment donné, qui va ouvrir enfin, toute l'aire frontale, tout le cerveau qui va se mettre en communication et n'être jamais que le traducteur de ce que l'univers lui dit. Autrement dit, mais pour y parvenir, il se trouve que justement l'oreille, dans sa maximum d'écoute, elle permet au cerveau d'avoir toujours suffisamment de stimulation, suffisamment également dans l'aide de verticalité et de tenue dans tout pour adhérer à tout l'ensemble, mais y adhérer d'une manière vécue et non pas seulement existentielle, comme qui fait qu'on est suspendu à notre cas habituel de toute la journée, et qui font qu'il y a une sorte de barrage systématique et de blocage par le niveau affectif de ce que l'univers veut toujours nous dire.
Ça veut dire que la connaissance ultime devra passer par l'oreille.
Elle devra passer en tout cas par l'écoute et par l'obéissance, puisque nous en parlions tout à l'heure.
Obéissance. Est-ce que ce n'est pas plutôt par une recherche?
Non, je crois que le mot obéissance, là, vous gêne, mais comme il gêne tout le monde, parce qu'il est immédiatement intégré comme une contrainte.
Oui.
En fait, il n'y a pas de contrainte dans le mot obéissance. Encore une fois, c'est une attitude d'écoute consentie vers quelque chose qui veut nous parler.
D'accord.
Et seulement, là, nous retrouvons la notion de l'être, à laquelle on faisait allusion tout à l'heure. L'être, ça n'est pas nous impliqués en tant que nous social, nous avec une étiquette, nous avec un nom, nous avec un acquis culturel. C'est quelque chose en dessous qui, à tout moment, nous reprend en nous disant, attention, il y a un « je suis » sous-jacent. Si vous voulez, nous vivons un peu philosophiquement à l'envers de ce qu'on veut être et peut-être impliqués par la philosophie. Nous, en France, par exemple, nous sommes tellement cartésiens, mais tellement loin de la réalité, puisqu'on vit toujours sur l'adage de Descartes en pensant que nous sommes que parce que nous avons douté.
Monsieur Thomas, c'est terminé, je vous remercie.